Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Historiquement vôtre, intégralement dédiée à...
Vous les femmes.
Vous les femmes, et surtout vous les femmes stratèges. Longtemps, les hommes vous ont regardé de haut, voire méprisé. Pas plus tard qu'hier, j'en connais un qui disait à sa cuisinière, qui lui proposait gentiment son aide pour les mots croisés du Figaro.
Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme.
Bonjour Stéphane Bern.
Non alors, bonjour Mathieu. J'adore les femmes et,
enfin,
et elles, m'ont fait,
elles
m'ont
fait. Elles vous ont fait quoi?
Ah ben elles m'ont fait, d'abord elles m'ont fabriqué, et ensuite elles ont fait ma carrière.
Elles s'y sont mises à plusieurs.
Bah oui. Alors, vous savez, on va consacrer cette émission aux femmes, vous avez raison.
Oui, mais pas n'importe lesquelles.
Non, des femmes stratèges. On réunit chaque jour dans Historiquement Vôtre trois personnages issus d'époques différentes, mais qui avaient un point commun. Et bien aujourd'hui, ce sont trois drôles de dames qui ont su tirer leur épingle du jeu. Elles avaient une vraie stratégie. Alors, je vous raconte d'abord la flamboyante Aliénor d'Aquitaine, une reine qu'il a été par deux fois dans deux pays. D'abord reine de France, puis ça s'est mal passé. Elle est devenue reine d'Angleterre dans une vie riche, menée effectivement avec stratégie. Bon, il y avait un peu d'amour autour hein, quand même. Et puis, nous avons rendez-vous avec la grande Catherine, Catherine II, la plus grande impératrice de l'histoire de la Russie, celle qui a mis son mari en échec pour lui prendre le pouvoir. Et de votre côté, Mathieu, alors, vous allez nous parler, je ne sais pas, d'une joueuse stratège plus récente
oui.
qui exerce encore sa stratégie.
Bah, tout à fait Stéphane, et j'ai bien vu ton SMS, hein, je lui ai demandé ses tarifs, elle m'a dit « Pour Monsieur Bern, je fais moins de 30%, je vous raconterai le destin étonnant de Zaya, la bonne amie des footballeurs, et surtout de Franck Ribéry, devenue Zaya Dehar, comédienne désormais reconnue. »
Oui. Alors, une autre stratège est à mes côtés.
Oui, c'est, attention à la transition.
Elle nous entraîne gratuitement, elle, dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs, mais alors gratuitement, que nenni, je m'inscris en faux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'ailleurs d'une femme assez proche d'Aliénor d'Aquitaine, qui a vécu, elle a vécu jusqu'à 87 ans. Je crois qu'Aliénor d'Aquitaine a vécu jusqu'à 83. Cette femme, c'est Lévi. Le premier empereur romain, tout le monde connaît, c'est le neveu de César, qui s'appelle Octave et qui devient Auguste.
Bon,
alors ça, d'accord. Mais qui donc a décroché, grâce à lui, la timbale de la première impératrice, c'est cette fameuse Lévi. Et Lévi, c'était une femme hors du commun. Et dans l'ombre de son mari, pendant 50 ans, elle va tirer les ficelles du pouvoir. Vous allez découvrir une femme étonnante.
Face à vous, ma chère Clémentine, un chroniqueur formidable, David Castello-Lopez. Bonjour. Avec vous, plus qu'une chronique
bonjour.
Aujourd'hui, un cri.
Oui, c'est l'histoire d'un cri qu'on entend souvent au cinéma, un cri mystérieux.
Vous voulez dire à l'époque où on allait au cinéma?
Exactement, on peut encore l'entendre chez soi si on veut, sur des écrans plus petits. Et voilà, ça va être une chronique que je vais lancer avec beaucoup de mystère, mais vous verrez, ça va être très sympa.
Beaucoup de mystère également dans la chronique d'Olivier Pouls, qui nous parle aujourd'hui, Stéphane, de la crêpe Suzette.
Eh oui, on va faire des crêpes à la façon de Suzette. Et vous, à la maison, vous ferez des crêpes Suzon.
Je crois qu'on peut arrêter l'émission là.
Oui,
je pense qu'on pourra pas monter en gamme. Donc,
je crois qu'on est au taquet.
On pourra s'arrêter
c'était
là. Donc,
brillant.
Il y aura.
Vous allez pouvoir faire une chorale, Stéphane et vous.
Oui, c'est magnifique. Donc, vous nous raconterez l'histoire de ma crêpe préférée, la crêpe Suzette.
Ah, voilà, honneur à une grande femme aussi d'ailleurs.
Oui. Et puis, on va jouer.
On va jouer, effectivement, Stéphane Bern, 5h-10. Une fois plus, vos fans retiendront leur souffle. Clémentine Portier-Kaltenbach va-t-elle à nouveau faire mordre la poussière à leur idole? Réponse à l'issue de Bern to be Alive, notre quiz de la mort. Mais tout de suite, un autre jeu, le jeu de la dame. Notre fil rouge cet après-midi, vous l'avez dit Stéphane, on part à la rencontre d'une stratège hors pair. Elle s'appelait Aliénor d'Aquitaine.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
La vie d'Aliénor débute comme un conte. Son père, le riche et influent duc d'Aquitaine, décède en 1137 alors qu'elle est encore toute jeune. Avant de mourir, il a le temps de demander à son suzerain, le roi des Francs, Louis VI le Gros, de veiller sur sa chère fille et de lui trouver un mari. Louis ne va pas chercher bien loin. Les terres, la richesse, la culture de la jeune fille conviendront parfaitement à son propre fils. Mais voilà que quelques semaines seulement après le mariage, Louis VI trépasse à son tour. Les deux adolescents sont soudainement propulsés roi et reine de France et les tensions ne vont pas tarder à se faire sentir. Il faut dire qu'Aliénor est flamboyante. Les chroniqueurs s'accordent à lui trouver une beauté qui dépasse l'ordinaire. Avec ses verts yeux riants, c'est-à-dire bleu-gris, ses bruns sourcils, ses cheveux plus beaux que dorés, sa bouche vermeille et suave, son col blanc nullement hâlé, sa gorge qui de blancheur rayonne. Elle a tout du canon de beauté médiévale. Mais la jeune femme n'est pas du genre à passer la journée à se regarder dans un miroir. Elle a soif d'aventure et de pouvoir. Une soif que sa position nouvelle de reine pourrait en apparence étancher. Malheureusement, Louis VII, son mari, n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il est pieux, très pieux, trop pieux pour la fougueuse Aliénor. À tel point qu'on lui prête cette cinglante pique « Je pensais avoir épousé un homme, j'ai épousé un moine ». Pour combler ses envies d'action, Aliénor pousse son mari à partir en croisade et à l'emmener avec lui. Une aventure qui comblera enfin son désir de vivre intensément. En chemin, l'armée fait halte à Antioche, gouvernée par Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor. Que se passe-t-il vraiment là-bas ? On raconte que l'oncle et la nièce passent beaucoup de temps ensemble. On murmure que Raymond, valeureux chevalier, a toutes les qualités qui manquent au roi et qui sont justement celles que cherche la jeune reine. Une chose est sûre, Aliénor a pris face à son mari la défense de son tonton. La raison en est sans doute plus politique que libidinale. Raymond est en difficulté. La ville d'Édesse a été reprise par les Turcs. Alors Aliénor veut lui apporter l'aide de l'armée française, mais Louis ne rêve que de foncer vers Jérusalem. Au terme d'une dispute violente, Louis tente de faire valoir son autorité de mari, mais Aliénor lui rit au nez. Leur mariage, suggère-t-elle, pourrait fort bien être annulé. La première pierre est posée, et l'idée d'une séparation fait son chemin. D'autant que Louis et Aliénor n'ont toujours pas d'héritier mâle. En 1152, le mariage est déclaré nul, à la faveur, comme souvent, d'un lien de parenté. Au XIIe siècle, les répudiations et les annulations sont monnaie courante, c'est vrai. Mais que la femme en soit l'initiatrice, c'est tout simplement inédit. Aliénor a 30 ans et pour elle, eh bien, une nouvelle vie commence.
Avec tonton Raymond ?
Non. Non.
Je sais pas.
Non, il ne s'est rien passé avec tonton Raymond, même si le roi Louis VII l'a fait croire.
D'accord.
Oh, elle ne reste pas célibataire bien longtemps. La même année, à peine plus de 2 mois plus tard, Aliénor se remarie. Une rapidité qui laisse penser qu'elle avait largement préparé son coup. L'heureux élu s'appelle Henri. Il est duc d'Anjou. Aliénor l'a déjà aperçu parfois à la cour de France. Il est jeune, 10 ans de moins qu'elle, il est beau, il est lettré et il a le sang aussi bouillonnant qu'elle. Son ambition est à la mesure de celle d'Aliénor. Il convoite la couronne d'Angleterre et ne va pas tarder, par un mélange d'alliances et de combats, à l'obtenir. De reine de France, Aliénor devient donc reine d'Angleterre. Toutes ses possessions basculent du côté anglais. Il faut imaginer quand même que c'est l'Aquitaine, vous voyez, qui est devenue anglaise.
Mais je ne comprends pas, Stéphane, comment, même par un jeu d'alliance et en intriguant, on peut devenir roi de reine d'Angleterre. Je ne comprends pas comment. Il n'y a pas une ligne de succession, toute simple.
On meurt très vite à l'époque.
Ah oui, donc ça va très vite.
Bah oui,
il y a beaucoup d'héritiers.
C'est un jeu d'échecs, un jeu de dames, si vous voulez. Les pions tombent et vous retrouvez sur le
trône. Au bon moment.
Et puis il faut surtout survivre aux maladies, à tout ce qui traîne, si vous voulez, à l'époque. Le royaume d'Henri s'étend désormais de l'Écosse aux Pyrénées et sur une bonne partie de la France. La Normandie, la vallée de la Loire, l'Aquitaine donc. On imagine la colère de Louis VII qui a le sentiment d'avoir été terriblement dupé. Parce qu'il l'a épousée pour avoir l'Aquitaine et l'Aquitaine passe du côté anglais. L'affaire marque le début d'une série d'affrontements entre les deux hommes et qui va durer plusieurs années. Mais pour Aliénor, c'est une période heureuse. Elle a réussi son pari. Elle est à la tête d'un puissant État et coule des jours heureux avec Henri et leurs 8 enfants. Hélas, le bonheur ne dure pas. Le roi multiplie les maîtresses. Il s'affiche même ouvertement avec la belle Rosamond Clifford. Est-ce pour laver cet affront que la reine entreprend alors d'aider ses fils à réclamer leur héritage ? Depuis Poitiers, où elle est revenue s'établir, loin de son volage époux, Aliénor tire les ficelles. Très vite, le ver est dans le fruit. Le partage des terres attise les convoitises et les jalousies. Bientôt, les fils se rebellent contre le père, mais la révolte échoue. Cette fois-ci, le coup d'Aliénor n'a pas fonctionné. Alors qu'elle s'apprête à demander l'asile à Louis VII, son ex-mari, Aliénor est rattrapée par les hommes du roi d'Angleterre. Accusée de comploter contre lui, la reine est faite prisonnière par son propre mari. Cette captivité pourrait marquer la fin d'une vie déjà bien remplie. Aliénor a eu 2 maris, 10 enfants, elle a été reine de France puis d'Angleterre, elle a déjà 50 ans. Mais vous êtes loin, mais alors très loin du compte. Aliénor, Mathieu, n'a pas dit son dernier mot. Vous l'avez compris, Aliénor d'Aquitaine est une formidable stratège. Elle a su quitter un mari trop ennuyeux pour un plus jeune et réjouissant époux. Mais en soutenant ses fils contre leur père, bah elle a cette fois raté son coup. La rébellion familiale n'a pas pris, Aliénor est prisonnière de son mari, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, ballotté de châteaux en monastères pendant plus de 15 ans, au gré des ordres d'Henri II. Il faut attendre 1189 pour que la mort du roi Henri II la libère définitivement. Aliénor a plus de 60 ans, mais elle n'a nullement l'intention de se laisser enfermer dans un rôle de grand-mère. Son fils Richard, le célèbre Richard Cœur de Lion, est devenu roi d'Angleterre. Et elle est là pour régner à ses côtés. C'est elle qui l'encourage à partir pour la troisième croisade.
Elle a une obsession avec les croisades.
Oui, à l'époque, vous savez, on pensait que libérer le tombeau du Christ. Pendant son absence, Aliénor assure la régence, réunit partout les seigneurs pour leur faire jurer fidélité et veille à ce que son autre fils, Jean, vous savez, le Jean sans terre, l'infâme Jean dans Robin des Bois.
Oui, dans Robin des Bois, c'est le vilain.
Mais oui, ne profite pas de l'absence de son frère pour lui prendre le pouvoir. C'est toujours pour Richard qu'elle se rend à 70 ans à cheval jusqu'en Espagne, chercher la main de la princesse Bérangère pour sceller une alliance avec la Navarre. Et c'est encore Aliénor que l'on voit traverser l'Europe, cette fois jusqu'en Sicile, pour présenter sa fiancée à Richard en partance pour la Terre Sainte. À son retour, Richard est capturé par le duc d'Autriche, Léopold V, qu'il avait insulté pendant la croisade. Un à un, Aliénor rencontre les barons de ses terres d'Aquitaine et réussit à rassembler péniblement la rançon faramineuse demandée pour la libération de son fils. Elle se retire enfin, après cette ultime victoire, dans la majestueuse abbaye de Fontevraud. Mais la vie décidément lui refuse tout repos. La mort de Richard en 1199 la replonge dans les affres de la politique. Elle a près de 80 ans et se bat désormais pour son dernier fils, Jean, dont elle essaye, malgré leurs divergences et pour le bien de la famille, de défendre les intérêts. Elle rend même visite au roi de France pour tenter d'apaiser les relations entre les deux royaumes. Cette carrière de diplomate la pousse aussi à négocier l'alliance de sa petite-fille, Blanche de Castille, au futur Louis VIII, parent du futur Saint-Louis, Louis IX. Aliénor meurt finalement en avril 1204, un mois après la perte de la Normandie par son fils Jean. Si le grand royaume qu'elle avait méthodiquement construit ne lui survit pas, son sang lui coulera pendant des siècles dans le sang de toutes les monarchies européennes. Et si vous voulez aller vous recueillir...
J'aimerais beaucoup.
Eh bien, vous savez, elle est magnifique. Elle est à Fontevraud, dans l'abbaye de Fontevraud.
Elle est accessible au public ?
Ah ben bien sûr, elle est là, offerte à vos yeux.
Et offerte à nos yeux.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Aliénor d'Aquitaine, nous sommes avec l'historien Philippe Delorme. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes historien, mais on peut dire spécialiste des familles dynasties royales. Vous avez notamment publié une riche biographie d'Aliénor d'Aquitaine qui vient d'être rééditée dans la collection Texto aux éditions Talendier. Aliénor d'Aquitaine est une maîtresse femme, elle est maîtresse de son destin. Est-ce que si on se souvient autant d'elle aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle a pris son destin en main?
Oui, vous savez, au Moyen-Âge, les femmes, effectivement, sont souvent dans la dépendance des hommes, dans la mesure où ce qui prime, c'est la force physique. Donc, c'est vrai qu'un destin comme celui d'Aliénor est particulier, il est assez exceptionnel, d'autant qu'elle a une longévité, comme vous l'avez dit, tout à fait étonnante. Elle va vivre pratiquement plus de 80 ans et elle sera active jusqu'à la fin. Donc, c'est un personnage quand même assez étonnant, assez unique dans l'histoire du Moyen-Âge.
À écouter le récit qu'en a fait Stéphane, Aliénor, c'est la femme stratège par excellence. On l'a vu, une de ses forces a été de savoir s'affirmer face aux hommes. Soit elle les utilise, soit elle les manipule, soit elle les trompe. Choix stratégique du mari, elle utilise ensuite ses enfants pour récupérer l'héritage. Son talent, c'est bien s'entourer, utiliser ses proches. Est-ce qu'elle était machiavélique ou est-ce qu'elle était tout simplement maligne?
Écoutez, elle a été aussi la victime de ses proches. Il faut bien se rappeler, comme on l'a dit, qu'elle a été prisonnière pendant une quinzaine d'années de son second mari Henri II, qu'elle a été répudiée d'abord par le premier Louis VII. Donc finalement, elle s'est retombée sur ses pieds, je dirais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait un revers, elle est suffisamment stratège, elle est suffisamment habile pour retourner la situation à son avantage et surtout elle a un dynamisme extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'au bout, et pourtant elle est poursuivie par le destin, tous ses fils meurent les uns après les autres, et bien jusqu'au bout elle va combattre, elle va continuer à lutter pour avancer, pour vivre.
À l'époque, elle avait fait scandale, Philippe, quand elle a été répudiée, enfin, quand le mariage avec le roi de France a été annulé, mais se remettre avec le roi d'Angleterre, l'ennemi juré, c'était quand même un sacré coup de poker ou de
Ah bah c'est extraordinaire, oui. C'est vrai que Louis VII était obligé de la quitter parce qu'elle n'arrivait pas à Paris, ou c'était plutôt lui qui n'y arrivait pas manifestement, puisque comme vous disiez, il était plus moine que roi. En tout cas, il n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle.
Puis elle a eu des enfants derrière, donc avec son deuxième mari.
Elle a eu cinq garçons par la suite, oui. Donc effectivement, c'était plutôt de son côté à lui qu'il y avait un problème, ça c'est certain.
Donc son mariage a été annulé avec le roi de France. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus facile d'annuler les mariages que ça ne l'est aujourd'hui quand on est catholique pratiquant. Oui. Hein. Mais parce que c'est vrai qu'on se mariait avec son cousin aussi, donc ça donnait...
Voilà, on utilisait ce qu'on appelait la consanguinité, le vice de consanguinité, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir un arrière-grand-père en commun pour pouvoir trouver un évêque de complaisance qui annule votre mariage, qui était bien utile. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que d'ailleurs, le Henri II, Plantagenet, était au moins autant son cousin que Louis VII. Hein. Donc finalement, tout ça n'était pas très très sérieux.
Alors, Aliénor, la grande stratège, c'est vrai qu'une stratège surtout à la longévité, incroyable, vous l'avez dit, à 70 ans, elle est encore à cheval pour aller chercher une fiancée à son fils Richard. Elle a vécu plus de 80 ans, à une époque où les vieillards étaient extrêmement rares. Elle a voulu placer ses pions jusqu'au bout. Il n'y a pas un jour où elle s'est dit je lâche l'affaire et tant pis. Non, jusqu'au bout, elle s'est battue.
Non, et puis, alors, non seulement à 70 ans, elle va chercher une fiancée pour son fils, mais à 80 ans, elle va chercher une autre fiancée pour le futur Louis VIII, roi de France. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle, qui n'avait pas pu donner d'héritier mâle à la couronne de France, eh bien, elle va marier une de ses petites filles, donc Blanche de Castille, à l'héritier du trône de France. Et donc, finalement, les rois de France, hein, Saint-Louis, sera son descendant.
Hein. Son arrière-petit-fils,
les rois de France descendent d'Aliénor.
Oui. Alors, Philippe Mathieu était très intrigué par l'histoire de tonton Raymond.
Vous m'avez intrigué en présentant la chose d'une certaine manière, Stéphane, pour attiser... Voilà.
Tonton Raymond...
tonton Raymond, oui.
Que s'est-il passé? Parce qu'à l'époque,
écoutez,
on dit que...
Ça fait partie de ce qu'on appelle la légende noire d'Aliénor d'Aquitaine. C'est-à-dire que c'est une femme qui, comme nous le disions, a su avancer ses pions, a su finalement vivre en homme, et donc elle va attirer sur elle beaucoup de médisances, beaucoup de ragots. On raconte, bien sûr, qu'elle est très volage, qu'elle a des tas d'amants, etc. Tout ça, ça fait partie d'une légende.
Oui, alors que les hommes de l'époque étaient très fidèles, les rois n'avaient pas de maîtresse,
bien
ça ne se faisait pas, hein, bien sûr, ça on l'a vu. Hein.
Non, il est très peu probable qu'il y ait eu quelque chose de charnel avec son oncle Raymond d'Antioche pendant la Seconde Croisade. Par contre, effectivement, comme elle a, je dirais, la tête politique, elle va soutenir les ambitions politiques de son oncle lorsque Louis VII passe par Antioche au cours de la croisade. Donc ça, c'est vrai que ça a été une première raison de dissentiment, de querelle entre elle et son premier mari.
Philippe Delan, un des grands ratages, quand même, on peut le dire, d'Aliénor d'Aquitaine, c'était le complot avec ses fils contre son mari. Résultat, elle va passer 15 ans en prison. Ça, c'est sa plus grande erreur. Elle vit ça, comme un échec, elle qui est si rusée d'habitude.
Oui, mais bon, elle a cru pouvoir réunir donc ses trois fils, donc Richard, Geoffroy, qui sera duc de Bretagne, et puis le futur Jean Santerre, donc autour d'elle, pour détrôner Henri II Plantagenet et essayer, en tout cas, de retrouver l'indépendance de l'Aquitaine, parce que finalement, ce dont elle a rêvé jusqu'au bout, c'est que l'Aquitaine garde quand même son autonomie par rapport à ce grand royaume d'Angleterre auquel elle appartenait. Hein. Donc oui, ça a été une erreur de stratégie, mais bon, c'est une époque où ce genre de guerre intestine existait beaucoup.
Il y a un mot quand même, Philippe, c'est que Aliénor, elle a imprimé, elle n'a pas seulement régné, dirigé, décidé, elle a imprimé un nouveau style. Et c'est vrai qu'elle maintenait une cour à Poitiers, et elle faisait venir des troubadours, elle a joué un rôle important.
On a oublié de dire peut-être qu'elle est la petite fille de celui qu'on appelait Guillaume le Troubadour, hein, qui était le duc d'Aquitaine, Guillaume IX, et donc il y a toute une tradition d'amour courtois, de troubadour, de cour lettrée, hein, à Aquitaine et à Poitiers, aussi bien à la cour de Poitiers qu'à la cour de Bordeaux. À l'époque, le sud de la France, l'Occitanie, était beaucoup plus développé, je dirais, intellectuellement et au niveau
vous voulez dire
même
que c'est le contraire
artistiquement que le nord. Hein. Et lorsqu'elle va arriver à Paris, elle va trouver une cour un peu provinciale, en quelque sorte.
Hein. Philippe Delorme, vous disiez tout à l'heure qu'elle a fait l'objet, Aliénor, de pas mal de médias. cuisance, c'est vrai qu'elle a déclenché beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, mais est-ce qu'à l'inverse, c'est quand même une femme qui a été maîtresse de son destin, est-ce qu'elle a fait des envieuses, est-ce qu'elle a ouvert une voie, est-ce qu'elle a été un modèle pour d'autres par la suite dans l'histoire ?
C'est difficile à dire. Je pense qu'elle a été sans doute un modèle pour sa petite fille, hein, Blanche de Castille, puisqu'en 1200, donc elle a 80 ou 82 ans, elle va donc à la cour de Castille pour ramener cette petite fille, la fille de sa fille Aliénor, qui avait épousé le roi de Castille. Hein, donc elle ramène en France Blanche, et Blanche va certainement avoir. Sans doute garder dans son esprit l'image de cette grand-mère extraordinaire. Elle elle-même sera une régente de France pour son fils Saint-Louis, tout à fait une femme de fer également. Donc on peut imaginer qu'elle a été, en tout cas pour Blanche, un exemple. Oui.
En tout cas, elle continue à fasciner. Merci beaucoup Philippe Delorme. Pour tout savoir sur Aliénor d'Aquitaine, moi je vous invite à lire, chers auditeurs, la biographie que Philippe Delorme lui a consacrée, Aliénor d'Aquitaine, dans la collection Texto aux éditions Talendier. Merci beaucoup Philippe.
Merci, à bientôt.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours de 16h à 18h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec des personnages qui se la racontent un peu parfois, faut bien l'avouer.
Oh oui.
Mais du côté des chroniqueurs, jamais, jamais, elle n'oserait jamais. La preuve avec Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah oui, c'est bien qu'on parle de femmes aujourd'hui, hein. Puis ça n'a pas toujours été facile d'être une femme à Rome, par exemple, à l'origine. Hein. Tout père de famille a le droit de vie et de mort sur tous ceux qui vivent sous son toit.
Ah oui.
Femme, enfant, hein, et un mari. A évidemment toujours toutes sortes de bonnes raisons pour sévir contre sa femme. Stérilité, adultère, avortement, abus de boisson. Et dans ces cas précis, il peut soit la répudier, soit la frapper, soit la tuer. Hein. Alors, nous dit Caton, si ta femme a commis une action perverse ou honteuse, tu peux la punir. Si elle a bu du vin, si elle a commis quelques actes déshonorants avec un autre homme, tu la condamnes. Si tu surprends ta femme en flagrant délit d'adultère, tu la tueras, sans jugement et impunément. Enfin, si c'est toi qui commets l'adultère, elle n'osera pas te toucher du doigt. Voilà ce que nous dit le grand Caton. Et oui, comme ouais. dit
Mais
la chanson...
Elle n'a pas le droit de boire ?
Ben non, pas trop.
C'est ce qui choque le plus,
Stéphane. Non, parce que une bonne patricienne romaine doit observer la tempérance. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? Mais il y a quand même donc quelques femmes issues de la grande aristocratie républicaine, puis impériale, qui auront des sorts plus doux. Et il en est même une, Livie, la première impératrice, épouse d'Auguste, qui va changer la donne, à la fois pour elle-même et pour ses congénères. C'est donc Livia Drusilla Augusta, née le 30 janvier 58 avant Jésus-Christ et morte en 29 après Jésus-Christ. Donc, je le disais tout à l'heure, elle est morte à 87 ans, ce qui pour l'époque devait être tout à fait exceptionnel.
C'était la femme la plus vieille du monde.
Non, mais surtout, ce qui est bien pour Livia, c'est qu'elle a vécu toute l'histoire de Jésus. Ah, mais,
oui, ça c'est quand même, ça c'est chouette. Mais enfin, comme elle était à Rome, ça lui a fait une belle jambe. Bon, alors elle est de la troisième épouse d'Auguste, Livie. Il a un coup de foudre pour elle alors que sa propre femme attend un enfant de lui et que Livie est enceinte d'un autre. Mais c'est pas grave, elle lui plaît.
À l'époque, tout était possible.
Alors, pas de problème. Ah oui, surtout quand vous apprêtez à devenir empereur. Donc, il dit à son mari, écoute, tu t'effaces, celle-là, je la veux, tu me la cèdes. Alors, c'est un coup de foudre, mais c'est aussi un coup politique, parce que cette union avec les Livii permettait d'associer deux des plus grandes familles romaines, les Livii avec deux I, les Claudii avec deux I, et ça donne cette fameuse dynastie julio-claudienne à laquelle vont appartenir les cinq premiers empereurs romains. Bon. Alors, Livie, c'est vraiment la matrone idéale. Elle file la laine.
Elle ne boit pas.
Elle est vraiment dans la communication. Hein. Elle tisse elle-même les tuniques de son mari et de son personnel. Elle est pieuse, elle est chaste, elle est pudique, elle est parfaite. Mais en coulisses, c'est une femme de tête. Elle est la confidente d'Auguste et il ne fait rien sans la consulter. Chose absolument extraordinaire. Imaginez ça. Avant d'aller voir sa femme, Livie, à chaque fois, il écrit toutes les questions qu'il veut lui poser, tous les sujets qu'il veut aborder, afin de n'oublier aucune des réponses et des conseils qu'elle lui donne. C'est pour ça que je vous disais que pour les affaires d'État, Livie, ça serait un genre de Madame de Maintenon à la romaine, mais pour les affaires d'alcôve, oui, un genre de Madame de Pompadour, parce qu'elle va savoir fermer les yeux sur les incartades de son mari, donc il lui en sait gré, et c'est comme ça qu'elle continue à exercer son pouvoir dans l'ombre. Et cette constance, bien sûr, va porter porter ses fruits. En 35 avant Jésus-Christ, Auguste obtient du Sénat que soit élevé des statues à la gloire de son épouse. Et puis surtout, elle est émancipée juridiquement. C'est une chose exceptionnelle pour l'époque. Ça lui permet de gérer ses biens elle-même.
Mais qui l'a décidé ça ?
Eh bien, c'est pas Auguste et elle. Vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur le célibat en disant comment Auguste a par tout moyen essayé de lutter contre le célibat et pousser les femmes à avoir des enfants. Et donc, et là, constamment, Livie qui a son oreille. Et donc, le privilège dont jouit Livie va être élargi à toutes les patriciennes ayant eu au moins 3 enfants. Elles auront droit de gérer leur vin. Et de plus, on lui confie un truc. Vous voyez, c'est un peu comme la carte increvable au mille bornes. Ça s'appelle la Sacro Sanctitas. Qu'est-ce que c'est que la Sacro Sanctitas ? C'est le caractère sacré et inviolable des tribuns de la plèbe. Livie l'obtient. Ça interdit à quiconque de la frapper ou de l'insulter. C'est bien ça quand on est à Rome. Vous voyez, quand on est une romaine, et ben, si on a la Sacro Sanctitas, ça vous évite de vous faire taper et insulter. Bon, voilà, ça en dit long sur le statut des femmes. Alors, dans son testament, Auguste adopte Livie. Il lui lègue le tiers de ses biens et elle le fait diviniser. Donc, elle étant sa veuve et à la fois sa veuve et sa fille, elle devient Augusta et elle devient la vestale du culte de son défunt mari. Désormais, eh ben, quand vous êtes vestale d'Auguste, vous avez le droit d'être assise au premier rang lors des spectacles et des jeux et vous déplacer dans Rome en carrosse. Bon, ça, c'est un privilège insigne. Et cette Livie, quand je dis qu'elle tirait les ficelles, c'est que depuis des années, ça fait à peu près 50 ans, elle fomente l'arrivée au pouvoir de son fils Tibère. Il y a évidemment, Auguste avait un certain nombre de descendants, des petits-enfants. Tous les descendants d'Auguste meurent et Tibère, le fils de Livie, devient donc empereur. Mais il a 56 ans. Il est un petit peu comme Édouard VII avec la reine Victoria. C'est-à-dire, c'est des hommes qui arrivent au pouvoir, ou le prince Charles qui, lui, n'y arrivera probablement jamais, ou le grand dauphin qui meurt avant son propre père. Donc, à 56 ans, il aimerait bien quand même se débarrasser un peu de sa maman pour régner, mais elle n'entend pas du tout de cette oreille. Elle continue à avoir une influence majeure sur le pouvoir romain. Et puis notamment, eh ben, elle fait ajouter par le Sénat au titre de son propre fils, par la grâce de Livie. Sur les statuts d'Auguste, elle fait mettre son nom avant celui de son fils. Je veux vous dire qu'il n'est pas content du tout. Du coup, quand sa maman disparaît, il n'y va pas. Il lui refuse les honneurs de Rome. Il lui refuse le titre de maire de la patrie. Il n'était pas content du tout. En tout cas, tout ça pour dire quoi ? Que voyez, oui, Livie, voilà, on la connaît peu. On connaît bien Auguste, mais si l'histoire n'avait pas été écrite au masculin, eh bien, ce nom Livie brillerait en lettres d'or au panthéon des grands hommes de l'histoire de l'Empire romain.
Bien belle histoire. Vous n'avez pas l'air très au courant de cette histoire, Stéphane. Si, vous êtes plus à l'aise sur Aliénor d'Aquitaine que sur Livie.
Bah, je l'ai plus connu, si vous voulez.
Voilà, vous l'avez mieux fréquenté, effectivement, effectivement. Clémentine, vous restez avec nous, au grand dam de Stéphane, pour ce moment sadi-comique qui fait le sel de nos après-midi, le quiz d'histoire à l'issue duquel les larmes de Stéphane coulent sur le lino du studio Coluche et le rire tonitruant de la victoire jaillit de la gorge de Clémentine. À tout de suite pour Burn to be Alive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors, c'est pas compliqué, Stéphane, si vous ne voulez pas que dans 6 minutes, Clémentine vous désigne à la vindicte populaire d'un pouce pointé vers le bas en s'exclamant. Il vous faut rebondir, Stéphane. Battre le rappel de tous vos neurones disponibles, si possible l'intégralité des 67. Jouons à Burn to be Alive, notre quiz de culture générale éminemment historique, vous le savez,
bien
Stéphane.
Bien sûr, bien sûr.
Première question. Le scandale de l'amiante. C'est en 1997. Oui, on commence avec quelque chose de rieur. Hein. Oui, c'est funky, oui, on est bien, c'est
et
l'après-midi sur Europe.
Très ancienne.
C'est l'histoire aussi. Hein. Oui, 1997, maintenant ça commence à être l'histoire. C'est en 1997 que le président Chirac l'interdit définitivement en France, l'amiante. Mais Irène Joliot-Curie elle-même avait publié en 1956 une étude sur sa dangerosité. Vrai ou faux ?
Ce qui est curieux, Stéphane, c'est qu'elle ait pu publier une étude sur la dangerosité de l'amiante alors qu'elle-même manipulait sans aucune précaution du radium, qu'elle a eu les mains brûlées par le radium, qu'elle est morte irradiée. Donc elle aurait déconseillé l'amiante et pas le radium. C'est-à-dire qu'elle aurait été sensible au danger d'une matière alors qu'elle en manipulait une autre autrement plus dangereuse. Ça me paraît paradoxal, mais je ne veux pas vous influencer.
Mais l'humanité n'est-elle pas paradoxale ? Stéphane ?
Non, parce que...
Est-ce que vous suivez le raisonnement ?
Oui, c'est surtout parce que on a découvert la dangerosité de l'amiante plus récemment. Non, je dirais non.
Vous avez gagné !
Vous avez gagné, mais en suivant un mauvais raisonnement, Stéphane. Puisque 1956, c'est la disparition de la fille de Pierre et Marie Curie. Et la première fois qu'on a pointé du doigt les dangers de l'amiante, ce n'est pas en 1956. Il faut remonter à Pline l'Ancien, un naturaliste romain né en 23 après Jésus-Christ, et qui avait noté que les esclaves chargés de tisser des vêtements en amiante souffraient des poumons. Tu m'étonnes. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus ancien. Ah oui. On a mis quand même 2000 ans pour se rendre
oublié.
Compte.
Entre
temps, on avait oublié. C'est con, la boulette. Oui. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Évoquons à présent la Renaissance dans ce qu'elle a de plus majestueux avec le peintre et architecte italien Raphaël, le fameux peintre de la Résistance, comme le présentait l'autre jour de Stéphane qui s'était un peu emmêlé les pinceaux.
Oh, oui.
Son père, Raphaël, était boulanger et il était contre l'envie de son fils d'avoir une carrière artistique. Vrai ou faux ?
Si c'était faux, je ne vois pas trop l'intérêt de la question. Je dirais oui, je ne connais pas bien la vie de Raphaël, mais ça me paraît crédible.
Si c'était faux, la question n'aurait effectivement aucun intérêt. Découvrons la réponse.
Vous avez perdu.
Et oui, c'était une question sans intérêt. Au contraire, le père de Raphaël était également peintre et poète. Il a été le premier maître de son fils. Mais quand il décède, Raphaël n'a que 11 ans. Si vous voulez connaître la suite, regardez Secret d'Histoire, ce soir en prime sur France 3, présenté par le Raphaël du service public, Stéphane Bern.
Mais non, mais vous dites que je me mélange les pinceaux.
Oui,
donc
c'est vrai.
Pas le Raphaël.
Non, c'est vrai que vous n'êtes pas très Raphaël. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. En 1916, aux États-Unis, dans l'Utah, les tarifs postaux étaient tellement bas qu'ils étaient inférieurs aux transporteurs de marchandises. Du coup, une banque a été construite grâce à des briques acheminées exclusivement par la poste, par colis de 10 briques, et ce pour 37 tonnes. Est-ce que déjà vous avez compris la question, Stéphane ? C'est ma première question. Vous l'avez compris ?
Vous savez, j'ai le même sentiment que quand on était à l'école primaire et qu'on
dénonçait
des problèmes avec des trucs de l'eau qui coule.
Ouais, lui, il adore ça. Vous vous souvenez l'autre jour quand j'ai raconté l'histoire de ce jeune garçon,
c'était facile,
le calculateur.
En même temps,
si vous avez posé la question, elle n'aurait pas d'intérêt si c'était.
Oui, mais
si
souvenez-vous de la question précédente.
C'est vrai.
Enfin, bref.
Non, c'est vrai.
Réfléchissez.
Ouais.
Il y avait 37 briques dans un train pour faire la poste qui était moins cher pour construire une banque.
Alors, voilà. Il a lâché l'affaire.
Je pense que la réponse, ça va être à pile ou face.
Vous allez la jouer à pile ou face ?
Oui.
Vous avez une pièce de monnaie
sur
vous ?
Alors, voilà, vrai ou faux ?
Attendez, Stéphane, on va la refaire parce que je vais vous filmer.
Non.
Si. Alors, attendez. Donc, Stéphane, qui accorde vraiment une grande importance au quiz de Culture G, a décidé de jouer sa réponse à pile ou face.
Non,
Stéphane, jouons la réponse à
Mathieu,
pile ou face.
Vous nous parlez, on peut le rappeler quand même, d'une histoire de maison construite avec des briques envoyées par la poste dans l'Utah en 1916.
Effectivement.
Dont personne n'a jamais entendu parler.
Est-ce vrai ou faux, Stéphane ?
Eh bien, nous allons le savoir grâce à une pièce de 20 centimes d'euros. Eh bien, c'est faux.
Alors là, ce qui est très fort, c'est que Stéphane ne sait pas jouer non plus à pile ou face, puisqu'il n'a dit ni pile ou face avant de jouer, et il a dit n'importe quoi. Bravo Stéphane. Et donc,
c'est
vous avez dit que c'était faux.
Mais c'est vrai, si c'est vrai plutôt.
Vous avez gagné.
Personne n'a compris la question. Personne
vrai ou faux
n'a
compris
la réponse. Et oui, c'était vrai.
Ouais.
Du coup, après ce jour, on a instauré une règle limitant le poids des colis pour éviter que l'on détourne l'utilisation des services postaux. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Au cœur de Londres, le 10 Downing Street est depuis 1905 le lieu de résidence officiel, vous le savez, du Premier ministre. On visualise très bien la porte et les célèbres briques noires. Eh bien, en 1960, pendant un ravalement, on s'est aperçu que les briques étaient jaunes. Elles étaient noircies par la pollution. Du coup, les Britanniques les ont nettoyées et repeintes en noir pour garder la tradition. Est-ce vrai ou faux ?
Oh ! Ça serait bien dans l'esprit
anglais
de faire ça. Oui, c'est plausible.
Qu'on
n'ait pas
les briques en noir.
Oui, parce que je pense que changer l'identité d'un lieu de pouvoir aussi essentiel que le 10 Downing Street, ça aurait déstabilisé les Londoniens, pourquoi pas. Ça paraît quand même insensé. On l'aurait nettoyé et repeint en noir derrière. Oh, ça paraît quand même bizarre. Vous ne pouvez pas m'aider, ça, Stéphane, à vous dire rien ?
Je n'ai pas la réponse. Moi, instinctivement, j'aurais dit oui, parce que j'aime bien l'idée.
Et votre instinct vous a souvent bien guidé
dans
cette
émission.
J'aime
bien l'idée, mais après, ça paraît quand même fou.
Oui, mais de toute façon,
une fois qu'on a nettoyé un bâtiment, on lui restaure sa jeunesse
Oui, mais après, c'est briqué. Vous voyez, c'est une couleur propre.
ce qu'il est si noir.
En tout cas, je peux vous assurer que c'est pas jaune. Hein. J'y suis allée, ouais. C'est pas jaune.
Non, je vais le fait de le repeindre. Je veux dire non. C'est marrant hein, parce que instinctivement j'aurais dit oui, mais en y réfléchissant, je pense que non.
Enfin, en même temps, le sort du monde ne se joue pas.
Voilà, ça se jouera pas là. De toute façon, j'ai déjà perdu sur la première question sur Raphaël.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Mais Clémentine, que se passe-t-il? Votre instinct, vous avez donné la bonne réponse. Vrai, les briques avaient noirci après 2 siècles de pollution.
Ça,
on ne pouvait pas changer l'image du Tender District. Les briques jaunes ont été peintes en noir. Mmh. C'est une défaite pour Clémentine, une victoire triomphale.
Non, restons
à la sueur de son front et surtout grâce à ce coup de génie du pile ou face.
Oui, ça aide.
Que vous avez triomphé. Bravo Stéphane Bern, l'animateur. L'animateur préféré des Français à pile ou face.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Stéphane, vous aimez les femmes, vous l'avez d'ailleurs prouvé avec le magnifique album qui a fait le bonheur de bien des mélomanes à Noël, Bern chante Dalida.
Comme prima, tu me donnes tant de joie. Que personne ne m'en donne comme toi.
Qui s'est vendu à 167 exemplaires. Et cet après-midi, nous rendons hommage aux femmes qui se sont distinguées par leur sens stratégique.
Oui, après Aliénor d'Aquitaine, je vais vous raconter le destin de Catherine II de Russie, qui, vous allez le voir, eh bien, savait elle aussi mener son monde à la baguette. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un personnage plus contemporain qui mène son monde non pas à la baguette, mais à la braguette, si je puis dire.
C'est si poétiquement amené. Oui, Stéphane, je rendrai hommage au parcours étonnant de Zaya Dehar, passé de Ribéry à Zlotowski. C'est pas donné à tout le monde et c'est la preuve d'une grande intelligence. Je vous brosserai son portrait, évidemment, à 99% vrai.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter autour. Eh bien, chaque après-midi, de 3 personnages qui sont liés par un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, dans la foulée du succès de la série de Netflix, on se penche sur le jeu des dames. À la rencontre des grandes stratèges de l'histoire, après Aliénor d'Aquitaine, je vais vous parler de Catherine II de Russie.
Et moi, de Zaya I de Paris. Un portrait qui, je le sens à la bave qui affleure aux commissures de leurs lèvres, Pouls et Castello-Lopez attendant avec un peu plus d'impatience que celui sur le pape François. Oui les gars, ça vient.
Et oui, ils sont là. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines des inventions, de tout ce qui fait notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, c'est un cri mystérieux.
C'est un cri mystérieux dont je lèverai le mystère pour vous. Un cri qu'on entend dans des centaines de films différents. Je vous le prouverai et ensuite je vous dirai d'où il vient.
Et puis alors, les origines d'une recette. Pourquoi on appelle les crêpes Suzette, Suzette?
J'imagine qu'il y a une Suzette dans l'histoire, Stéphane. Ouais. Je dis ça, mais bon.
Oui, et ça n'avait rien à voir avec Danny Briand, je vous rassure. C'est pas lui qui a inventé la recette non plus. C'est un peu plus vieux que ça.
Ah, vous nous faites pas la petite chanson là?
Ah, vous le voulez?
Et oui, parce que quand même, vous l'avez bossé. Je trouve qu'il a pas mal travaillé. Il le tient bien.
On va faire des crêpes à la façon de Suzette. Et vous, à la maison, vous ferez les crêpes Suzon.
Voilà, je crois que tout est dit. Tout n'est pas dit.
Non,
il y aura le mot de la fin, Stéphane,
chaque
jour. L'histoire d'une expression qu'on utilise au quotidien aujourd'hui, l'expression le pot aux roses.
Mais oui, pourquoi on dit vous avez découvert le pot aux roses?
Oui, déjà, moi, longtemps, j'ai cru que c'était le poteau rose.
Ah, mais parce que vous vivez dans un univers de bisounours. Non, je pensais au pot aux roses.
Oui, un pot aux roses avec des roses.
Eh bien, écoutez, vous saurez tout à la fin de l'émission.
On saurait tout.
Essayez de suivre jusqu'au bout.
Je serai là jusqu'au bout. Je ne compte pas. Je compte aller nulle part. Mais d'abord, plongeons sans attendre dans le portrait de notre deuxième stratège du jour, direction la Russie. Et oui, où nous attend en duplex Catherine II.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui Mathieu, Catherine II n'était pas destinée à devenir impératrice de toutes les Russies, d'autant qu'elle est allemande. Et en fait, elle ne s'appelle pas Catherine, elle s'appelle Sophie.
Elle Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Stéphane?
En 1729, dans une famille de la noblesse allemande, les Anhalt-Zerbst. Et c'est en partie à sa mère, grande stratège elle-même, qu'elle doit les manœuvres destinées à lui préparer un destin extraordinaire. Jeanne-Élisabeth de Holstein-Gottorp a de grandes ambitions pour sa fille et une technique admirable. Elle envoie régulièrement des portraits de sa fille à la cour de Russie où l'héritier de l'impératrice Élisabeth, le futur Pierre III, est en âge de se marier. Le mariage d'une princesse allemande avec le tsar en devenir est aussi pour Frédéric II de Prusse, une façon d'éviter une alliance entre la Russie et la Saxe sans avoir à offrir l'une de ses propres sœurs. De toutes les princesses de l'Allemagne en âge de se marier, aucune ne convenait mieux à la Russie et aux intérêts prussiens, résume le roi de Prusse dans ses mémoires. Le 21 août 1745, à 16 ans tout juste, Sophie épouse donc Pierre en grande pompe. Hélas, le jeune homme, à peine plus âgé qu'elle, n'a rien du prince charmant. Il boit, il se montre violent, c'est un garçon incontrôlable. Les débuts à la cour sont très difficiles pour l'adolescente qui parvient malgré tout à adopter les mœurs de son nouveau pays. 17 ans plus tard, enfin, Pierre accède au trône. Sophie, devenue Catherine, pourrait rester dans l'ombre à subir les frasques de ce mari incommodant. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Le nouveau tsar n'est pas très apprécié. Lui non plus n'est pas russe, puisqu'il a grandi en Allemagne. Il affiche un mépris féroce pour toutes les traditions locales, les coutumes, et puis cette langue russe qu'il maîtrise si mal. Dans l'esprit de Catherine, l'idée que cet homme n'est pas apte à diriger le pays a sans doute germé il y a longtemps déjà. Mais il est maintenant temps de passer à l'action. Moins de 6 mois après le couronnement, Catherine endosse l'uniforme vert et or du Préobrajensky, le plus ancien régiment de la garde impériale. Et elle marche à la tête d'une troupe de soldats vers Saint-Pétersbourg. Pendant toutes ces années, elle a sucré autour d'elle un cercle d'hommes fidèles et compétents. En un tour de main, elle est acclamée. Son mari, quant à lui, est arrêté. Il mourra quelques jours plus tard, assassiné dans des circonstances assez louches. Le coup d'État n'a pris que quelques jours. À 33 ans, dans son bel habit militaire, passant en revue les troupes sur son pur sang gris, Catherine a de quoi pavaner. Elle vient tout simplement de renverser son époux. D'abord, elle utilise son enfant comme alibi pour justifier son geste, pour ne pas laisser le temps de contester son pouvoir. Catherine se fait couronner dans les semaines qui suivent. La nouvelle impératrice se montre d'une extrême habileté politique. Elle conserve, dans un premier temps, les mêmes collaborateurs que ses prédécesseurs. Elle ne se montre pas trop dure envers ses ennemis, ni trop prodigue envers ceux qui l'ont aidée, mais elle est aussi intraitable envers tous ceux qui pourraient, de près ou de loin, revendiquer une légitimité sur son trône. Et n'hésite pas à les faire éliminer.
Bah déjà, elle a fait éliminer son mari, d'après ce que vous nous dites, Stéphane, à demi-mot.
Oui, c'est pas elle, vraiment. Elle a laissé faire. Oui, il était dans une prison. Faire, oui. Il est mort. Non. Catherine a-t-elle un sens inné du pouvoir? Ah, son charisme ne fait pas tout. Elle lit aussi beaucoup Tacite et Machiavel, Montesquieu. Elle correspond avec Voltaire et Grimm. Elle accueille Diderot à sa cour. Son modèle, voyez-vous, Mathieu, c'est Pierre le Grand, le grand-père de son mari, qui n'avait visiblement pas hérité de ses qualités. Comme Pierre Ier, Catherine veut moderniser la Russie et la placer au cœur des rapports de force européens pour en faire, enfin, davantage qu'une puissance de second rang. En habile tacticienne, sous l'égide de son ministre Panine, l'impératrice se rapproche de la Prusse et de l'Angleterre et pose les bases d'une alliance, le système du Nord, qui doit contrer l'entente franco-autrichienne et mettre la Russie sur le devant de la scène. Catherine ne s'est pas contentée de prendre le pouvoir, elle l'exerce aussi avec brio. D'abord, elle étend son empire vers l'ouest, sur des terres prises à la Pologne, vouées à disparaître. Après ses nombreuses victoires, son but est d'atteindre la mer Noire et de contrôler, pour s'assurer, un accès sûr à la Méditerranée. Pierre le Grand en avait rêvé, c'est Catherine qui l'a fait. Sur terre, elle affronte les Tatars. Sur la mer, elle combat les Turcs. Les victoires s'enchaînent. En 1774, elle obtient le droit de naviguer sur la mer Noire. 3 ans plus tard, elle détruit la flotte ottomane à Tchesmé en chargeant ses navires de poudre et d'huile et en les lançant sur les bateaux ennemis. La Turquie perd de gigantesques territoires qui tombent dans l'escarcelle russe. C'est Catherine qui fait de son pays une puissance navale. En 1783, l'impératrice annexe la Crimée. Ses possibilités commerciales et militaires s'étendent désormais dans toutes les directions. Entourée de ses proches conseillers, Orlov, Potemkin, Panine, tous des hommes, vous l'aurez noté, les accusations de nymphomanie viennent régulièrement tenter de ternir son œuvre, celle d'un grand chef d'État. Un grand chef d'État avec une ombre au tableau, cependant. Elle n'a pas fait beaucoup pour améliorer le sort des serfs, vous savez, les esclaves, et n'a pas été le despote éclairé que les philosophes des Lumières, comme Voltaire ou Diderot, avaient espéré trouver en elle. Et la Russie est passée loin des grandes idées alors en ébullition en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, les libertés individuelles,
les droits de l'homme, c'est une notion qui reste un peu étrangère.
Oui, vous voulez dire encore à l'heure actuelle, peut-être même en Russie.
Bah, on est revenu, vous savez, on revit tout, même la Crimée, oui, bah,
hop, la elle a été réannexée. Oui.
Mais elle reste une extraordinaire stratège. Sous son règne, le territoire russe s'agrandit d'un tiers. Catherine la Grande meurt en 1796, après plus de 30 ans de pouvoir absolu, non sans avoir tenté de jouer son dernier coup. Empêcher son fils Paul, qu'elle ne juge pas assez capable, d'accéder au trône. Sans succès cette fois-ci. Pensait-on, en la mariant si jeune pour faire le jeu des alliances politiques, que Catherine ne serait qu'un pion sur l'échiquier ? Eh bien, c'était bien mal la cerner.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour essayer de décrypter cette fascinante Catherine II de Russie, nous sommes avec l'éminente spécialiste, justement, de la Russie, Francine Dominique Lichtenan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Russie, et vous publierez dans quelques semaines une biographie attendue de Catherine II de Russie, Catherine II, le courage triomphant, aux éditions Perrin. Pour vous aussi, elle reste la plus grande impératrice de Russie, voire même au-delà.
C'est une très grande impératrice, sans aucun doute, mais il ne faut pas oublier celle qui lui précède, Élisabeth, dont elle s'inspire souvent pour ses réformes.
Mais en quoi Catherine II surpasse toutes les grandes impératrices ?
Je dirais que c'est qu'elle prend vraiment la politique en main. C'est elle qui décide, c'est elle qui promulgue des lois, c'est elle qui oriente la politique, en s'inspirant souvent d'ailleurs de celui qu'elle appelle son grand-père, Pierre le Grand.
Et Catherine de Russie, est-ce qu'on peut dire ça, une aliénor d'Aquitaine, mais 600 ans plus tard ? Une femme qui décide, qui complote, qui dirige tout le monde, on l'a souvent qualifiée de despote, mais c'est surtout une femme qui n'a pas peur. J'ai l'impression que c'est deux femmes avec Eleanor qui n'ont juste pas peur, et c'est quand même très étonnant, surtout vu le statut de la femme à l'époque. Elles n'ont peur de rien.
Tout à fait, de là le titre de mon livre d'ailleurs. C'est une femme qui a peur de rien, qui est extrêmement courageuse, mais qui sait aussi se faire conseiller, c'est-à-dire elle est à l'écoute quand même de son entourage politique, notamment Panine pour les débuts de son règne. Elle sait aussi s'appuyer sur des personnes qui exécutent finalement ses ordres, c'est-à-dire le secret de son lien avec Potemkin est lié aussi au fait que Potemkin exécute systématiquement tout ce qu'elle désire, et c'est lui le maître d'œuvre de l'ouverture vers les mers chaudes, c'est-à-dire vers la mer Noire d'abord, puis la Méditerranée.
Justement, on parle de Potemkin. C'est, d'abord, elle a dirigé le pays à travers des hommes qu'elle dirigeait, qu'elle goûtait aussi, on le sait. Elle avait même des dames qui goûtaient les hommes avant elle, n'est-ce pas ? Parce qu'elle était, elle était robuste, elle était redoutable. Elle avait même, on parle de son cabinet sexuel, enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler.
Oui, le cabinet érotique je pense que c'est une légende, il est plus tardif. Il suffit de regarder les quelques photos que nous avons de ce cabinet pour constater que ce ne sont pas des meubles du XVIIIe siècle. C'est plus tardif, mais elle avait un appétit sexuel certain, peut-on dire.
Mais ce n'était pas une despote éclairée, vous disiez ça tout à l'heure, Stéphane, c'est un peu décevant finalement de voir.
C'est décevant parce que regardez, tous les grands philosophes, de Diderot, Voltaire, portaient au nu cette impératrice qui était autoritaire. On a le même problème avec Frédéric II de Prusse, c'est-à-dire on pense que ce sont des despotes éclairés, mais ce sont avant tout des despotes.
Tout à fait, je pense aussi, et il ne faut pas l'oublier, que ce soit Frédéric II, que ce soit Catherine II, ce sont d'habiles publicistes. Ils savent prendre en main leur propre image, la forger et la répandre en fonction de leurs désirs. Donc le despotisme éclairé, c'est finalement une invention de Catherine. Et la réalité, évidemment, elle est bien loin de ce rêve et de ce mythe qu'elle a su se forger.
Il y a quand même une chose incroyable. Voilà une femme qui épouse donc celui qui est en droit le tsar de toutes les Russies, qui fait en sorte de le faire disparaître, elle le fait assassiner, on peut le dire, et elle s'approprie le pouvoir. Mais on a l'impression
en
Russie, ce sont les femmes qui ont fait, à part Pierre le Grand, ce sont les femmes qui ont tenu le pays.
Au XVIIIe siècle, certainement, il y a quatre impératrices qui se succèdent, pour ainsi dire, sans interruption, avec quand même deux très longs règnes, celui d'Élisabeth, un règne de 20 ans, et celui de Catherine, un règne de 34 ans. Donc, c'est une exception, je dirais une exception russe au XVIIIe siècle, d'avoir une série de femmes qui règnent d'une main de fer, parce que ce sont toutes des femmes très très fortes, d'ailleurs toutes des femmes qui sont soit non mariées ou veuves, il faut le souligner, donc il n'y a jamais d'hommes qui soient vraiment présents à leur côté, et qui font de la Russie quand même même un pays moderne, un pays des Lumières, même si ça reste là encore un mythe, mais en tout cas un pays qui s'impose sur l'échiquier européen.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, Stéphane l'a déjà admirablement fait, mais j'ai envie de comprendre comment elle a réussi ce coup d'État, qui rétrospectivement paraît dingue. Comment elle réussit comme ça à éliminer son mari, qui est légitime tsar de Russie. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui. Comment elle s'y est prise ? C'est un coup qu'elle a fomenté bien longtemps avant pour s'assurer de soutien indéfectible ?
Oui, c'est quelque chose qui se prépare dès la fin du règne d'Élisabeth, qui d'ailleurs elle-même songeait à une régence pour Catherine. Le temps que son fils Paul parvienne à l'âge adulte. Donc ça se prépare déjà à la fin des années 1750. Catherine forge un entourage d'hommes fidèles, dont son amant Grigory Orlov. C'est le premier élément fondamental. L'autre élément fondamental, c'est que Pierre n'est pas aimé, et elle le sait. Pierre ne s'est jamais adapté, Stéphane Bern l'a dit, à la Russie, il n'apprend pas la langue, il ne se plie pas aux exigences de l'orthodoxie, donc il est considéré comme un étranger qui n'a rien à voir sur le trône de la Russie. Troisième point très important, c'est que Pierre, on est en plein guerre de 7 ans, il ne faut pas l'oublier, où la Russie est dans une coalition avec l'Autriche et la France contre la Prusse. Et Pierre III, grand admirateur de Frédéric, veut mettre un terme à cette guerre et veut s'allier à Frédéric II. Donc, Catherine a toutes les facilités à trouver un appui dans les gardes et même dans l'armée. Et c'est en fait l'armée qui soutient ce coup d'État en sa faveur, toujours est-il, en sa faveur comme régente, pour que Paul puisse accéder au trône une fois parvenu à l'âge adulte. Et c'est Catherine, et c'est là le vrai coup d'État en fait, qui se fait proclamer impératrice au détriment de son fils. C'est la deuxième phase en fait de ce coup d'État qui est fondamentale. Catherine n'est certainement pas impliquée dans la mort suspecte de son mari. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. A-t-il été assassiné ? Peut-être par Alexei Orlov, ce n'est pas exclu. En tout cas, il y a aussi l'autre variante, c'est qu'il aurait eu une colite néphrétique et qu'il en serait mort, qu'on ne l'aurait pas secouru.
On l'aurait laissé mourir.
Voilà, c'est ça. Oui.
En tout cas, on a hâte de lire votre biographie, Catherine II, Le courage triomphant. En tout cas, merci Francine Dominique Lichtenan d'avoir été avec nous. Donc ça paraît en mars prochain aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque le jeu des dames, les grandes stratèges de l'histoire. Et au moment de la répartition de nos trois récits, il a été décidé, Mathieu, que je m'occuperai donc des mortes, Catherine II de Russie, Aliénor d'Aquitaine et vous des très vivantes, des très remuantes aussi, Zaya.
Oui, encore, les auditeurs noteront, une répartition équitable des personnages, à vous les reines prestigieuses et les impératrices, à moi les tapins à footballeurs. Sauf que vous avez été pris à votre propre jeu, Stéphane, car Zaya s'est révélée être bien plus qu'une escort girl de luxe, une femme avec un tempérament, il faut bien le dire, un certain génie. Précisons d'emblée qu'ici n'est pas le lieu pour ouvrir un débat moral sur la prostitution, c'est un sujet complexe qui mérite un autre écrin qu'une émission historico-potache où la seule évocation du nom de Zaya suffit à donner des suées à David Kstelops et à rendre complètement chèvre Olivier Poul, surtout quand je lui aurais révélé que dans ses prestations, Zaya propose désormais pour les gourmands une pratique érotique à base de bûches aux noisettes.
Ah ben tu peux compter dessus, ouais, sur ma grosse bûche.
Oui, madame, messieurs, gendarmons-nous, s'il vous plaît, un peu de tenue. Hein, l'idée de mon papier est justement de vous montrer comment Zaya Dehar a su s'élever au-dessus de son statut de 9 dixièmes de mondaine. Son parcours est proprement fascinant. Zaya vient au monde le 15 février 92 en Algérie. Oui, vous l'aurez noté, Rachita. Pour une fois, la musique correspond bien au pays. Autant dire que cette chronique est placée sous le signe de la précision. Et au-delà même de vos attentes, les amis, puisque je peux même vous dire que Zaya est née à Gris, à l'ouest de l'Algérie, non loin de l'aéroport de Mascara. Aucune importance pour la suite de la chronique, mais c'est rigolo, un aéroport qui s'appelle Mascara, surtout quand l'histoire concerne une jeune femme qui en met beaucoup. Papa est en haut, il est ingénieur, maman est en bas, elle fait probablement du chocolat, ce qui ne les empêche pas de divorcer. Zaya a 10 ans quand elle débarque en France avec son frère et sa mère. Elle ne parle pas encore français, déménage beaucoup et lutte pour assurer à l'école. Elle a du potentiel et de l'ambition, elle le sait, mais le théorème de Thalès et les problématiques spécifiques des territoires ultramarins peinent à la séduire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour s'assurer un avenir ? Elle prend des cours particuliers chez Academia. Parce que chez Academia, chaque élève reçoit une mise à niveau personnalisée. Non, je déconne. Elle sort en club, elle commence à se prostituer à l'âge de 16 ans. Seulement voilà, attention Stéphane, attention. C'est comme dans tous les milieux, il y a prostitution et prostitution. De par ses dons naturels, mais aussi son perfectionnisme, Zaya va rapidement devenir une call girl de luxe, évoluant exclusivement dans des clubs du 8e arrondissement de Paris et des suites de palaces avec chauffage au sol. Bref, une escorte chic, c'est la ligue des champions des dames de compagnie horizontale. Comme vous me l'aviez demandé, Stéphane, je me suis renseigné car vous m'aviez dit, sans les tarifs, actualisés au 1er janvier 2021, la chronique n'a pas de sens. Son taux horaire oscille entre 1000 et 2000 euros. Elle gagne donc en moyenne jusqu'à 20 000 euros par mois.
Mais 1000 euros par heure?
Bah oui, voire 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros par heure, Stéphane. À ce prix-là, je n'ai pas enquêté plus loin, parce qu'on n'a pas les moyens à Europe 1, je ne pouvais pas faire une note de frais, mais j'imagine qu'elle fait des trucs dingues. Bon, peut-être pas aussi dingues que les trucs que fait Clémentine Portier-Kaltenbach et pour beaucoup moins cher.
Je fais des castagnettes avec ma langue.
Alors, elle va peut-être pas aussi loin, mais ça doit quand même être assez sympa et assez créatif. Ses clients sont en tout cas riches, très riches et certains très connus. C'est en 2010 que tout bascule. Les joueurs de foot Karim Benzema et Franck Ribéry sont accusés d'avoir sollicité les charmes de Zaya, contre rémunération bien sûr. Problème, Zaya est encore mineure, elle n'a que 16 ans. Même si l'âge du consentement sexuel dans notre beau pays est fixé à 15 ans, la prostitution n'est légale que si la travailleuse a plus de 18 ans. C'est le scandale. Pour rappel, Franck Ribéry s'est offert Zaya en guise de cadeau d'anniversaire. À l'époque, au Bayern de Munich, il s'est fait expédier la jeune escorte par avion jusqu'à sa chambre d'hôtel. Magie d'Amazon. Benzema, quant à lui, aurait fait appel à Zaya dans un club huppé des Champs-Élysées car il savait qu'il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bien content de ne pas être le seul à se faire choper, Franck Ribéry ne manquera pas de se foutre de sa gueule dans le vestiaire des Bleus en lui chantant
Champs-Élysées.
Puis menacé par la police d'expulsion vers l'Algérie, un pays bien connu pour son aimable traitement des femmes déchues. Et notre intrigante devient un véritable phénomène. La machine judiciaire ronronne pendant 4 ans jusqu'à ce que Ribéry et Benzema soient acquittés. Ils ne savaient pas que Zaya était mineure. Bouleversé par toute cette affaire, Franck Ribéry présente à lui des excuses à la nation. Un grand moment pour l'émotion, moins pour la syntaxe.
Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français.
Oui, après avoir demandé pardon à tout notre pays, Francky est reparti jouer à le ballon. Mais quid de Zaya? Quid de Zaya? À 18 ans, éprouvée par cette affaire, elle est au plus mal. Elle avouera même plus tard avoir pensé au suicide. Elle disparaît, loin du tumulte médiatique et des projecteurs. Elle se sent aussi minable, aussi insignifiante sur cette terre qu'un sapin parfumé pendouillant au rétroviseur d'une Peugeot 508 immatriculée dans le Val-de-Marne. Et justement, c'est en écoutant une chronique d'un franco-portugais mi-comique, mi-journaliste sur la success story du sapin parfumé qu'elle est devenue une cash machine, qu'elle a le déclic, Zaya. Elle va devenir elle-même un sapin parfumé.
Ah bon ?
Non, c'est une image. Simplement, Zaya a compris tout le profit qu'elle pouvait tirer de sa soudaine notoriété. Elle va devenir une marque. Elle embauche un avocat et dépose son nom, Zaya Dehar. Et comme elle rêve depuis toute petite de mode et de glamour, elle trouve un fonds d'investissement à Hong Kong qui va l'aider à lancer sa première collection de... D'après vous, elle adore ça depuis son adolescence.
Des pieds de porc.
Non, de soutien-gorge, Olivier. Et de culottes. Sa collection de lingerie est un succès. Entre-temps, son physique de poupée aux courbes irréelles suscite le vif intérêt des photographes de mode. Zaya devient mannequin. Son corps reste son outil de travail, même si elle s'en sert désormais un peu différemment. Karl Lagerfeld la remarque et s'exclame. Stéphane, si vous voulez bien me faire Karl.
J'ai été frappé par son histoire et sa silhouette. J'ai trouvé extraordinaire dans l'esprit d'une Coco Chanel ou d'une courtisane, comme la belle Othéo. Je vais ajouter un tout premier lookbook.
Le mash-up de Karl Lagerfeld et Omar Bongo. Fin 2015, les célèbres photographes Pierre et Gilles l'imaginent en nouvelle Ève du Jardin d'Éden et même en Marie-Antoinette et carrément en Marianne. Zaya, en symbole de la République française, quel plus beau doigt d'honneur pouvait-on faire aux obscurantistes de tous bords quelques jours seulement après les attentats de Paris? Il ne manque plus que le cinéma et c'est chose faite en 2016 avec une première apparition dans le film Joséphine s'arrondit, puis carrément le premier rôle dans Une fille facile de Rebecca Zlotowski, dans lequel je ne dirais pas qu'elle est bonne, déjà parce que ça pourrait être mal interprété, mais je dirais qu'elle est fascinante, avec un jeu un peu à la Bardot, évanescente, presque irréelle. On est en 2019, Zaya monte les marches de Cannes. Fin du conte de fées qui aura probablement une suite. Zaya est pleine de surprises et se porte bien, comme le prouve un de ses derniers clichés sur Instagram. On la voit chevauchant un escargot géant en bikini, elle, hein, pas l'escargot. Voilà pour ce portrait, je le concède, assez flatteur, qui a pu choquer peut-être les plus cucérés de nos auditeurs. Stéphane, un dernier mot, peut-être pour introduire un zeste de morale dans cette séquence et tempérer le propos un peu trop pro-prostitution de mon papier.
J'habite Pigalle.
Ah oui.
Ah oui. Les anciens bars à filles ont été transformés en crèches.
Et vous le déplorez?
Oui, parce que vous savez, elle gardait les clés.
Voilà un bel argument auquel n'avait pas pensé Marlène Schiappa. À bon entendeur, madame la secrétaire d'État.
Non, vous exagérez là. Mais vous savez que je l'ai rencontrée, moi, Zaya.
Alors racontez-nous.
Non, elle est absolument charmante. Oui. Alors, elle est toute petite, mais très bien faite, très bien proportionnée.
Oui, ça, on l'a vu.
Mais, pas
mais
très,
vous l'avez
très
vu
très
le film?
J'ai pas vu le film.
Non, mais je suis en vidéo sur Europe 1.fr. Elle a la taille d'un berger allemand.
Oh, vous avez.
Vous le montrez.
Parce qu'elle a affaire, elle est à la bonne taille.
Oh, Stéphane, non. Non, on avait réussi à tenir un certain chic en parlant de Zaya. Et vous, hop, vous sabordez tout à la fin comme ça.
Oui, mais
faites-le moi avec la voix de Karl Lagerfeld. Comme ça, on n'aura pas de procès.
En tout cas, merci Mathieu. C'était très amusant et on en a beaucoup appris pour cette stratégie.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il est un peu français, un peu portugais, il est surtout extrêmement mystérieux. David Castello-Lopez nous emmène aux origines, chaque jour les origines d'une invention, d'un objet, mais aujourd'hui d'un son.
Tout à fait. Stéphane, Mathieu, Olivier, est-ce que vous avez vu le film King Kong de Peter Jackson en 2005?
Non.
Non.
Bon, vous ne l'avez pas vu, mais à un moment dans ce film, il y a des diplodocus qui glissent d'une falaise et ils entraînent sur leur passage un monsieur qui meurt parce qu'il tombe. Et en mourant, ce monsieur fait un cri. Voici l'audio de cette scène. Est-ce que vous avez entendu le cri qu'on a entendu dans la deuxième partie de cet audio?
Le cri humain, ouais. Pas
voilà,
le cri du diplodocus.
Cri humain, voilà. Je vous le remets une fois pour que vous l'entendiez bien. C'est le deuxième. Donc il y a le diplodocus d'abord. Puis le cri dont je parle. On pourrait se dire que c'est un cri de mort qui n'a rien de particulier. Mais en fait, quand on commence à faire attention, on remarque qu'il n'y a pas que dans King Kong qu'il y a ce cri. On regarde Indiana Jones et la dernière croisade, par exemple, et à un moment, il y a Harrison Ford qui accélère très fort avec son camion. Et du coup, il y a un soldat nazi qui tombe du camion à l'arrière. Et ça donne ça.
Et c'est le même cri.
Et c'est le même cri, exactement.
Pourquoi?
Parce que quand on meurt dans un film, on fait
« Ouais, exactement. Autre exemple encore, Batman de Tim Burton, la même année, en 1989, à un moment où Batman il fait passer un méchant par-dessus une rambarde pour le tuer, encore une fois.
Sur le même type,
le
double.
Même cri. Alors, je vous en ai pris trois, mais il y a des centaines d'autres exemples de scènes similaires où on entend exactement ce cri. Alors, on a envie de dire, mais d'où il vient? Et pourquoi est-ce que les ingénieurs du son des films le foutent partout? Alors la première fois qu'on l'a entendu, ce cri, c'est dans un film de Raoul Walsh, qui date de 1951. Il y a un personnage qui marche dans une étendue d'eau, et là il y a un alligator qui le mord et qui l'entraîne dans l'eau. Et le monsieur, évidemment, meurt en faisant donc ce bruit que vous connaissez très très bien maintenant. Là il marche dans le marécage, hop, alligator, et... Voilà. Ce cri, il a très probablement été enregistré par un acteur américain qui s'appelle Sheb Woolley en studio. Et il a fait ça après le tournage du film pour faire ce qu'on appelle de la post-synchro, c'est-à-dire qu'on rajoute des sons de personnages a posteriori. Et à partir de là, ce cri, il a fait partie de la banque de sons de Warner Bros., le gros studio de cinéma hollywoodien, qu'il a mis régulièrement dans ses films, un peu à chaque fois que quelqu'un décédait, si vous voulez, de façon spectaculaire. Et dans les années 70, il y a un étudiant en cinéma qui s'appelait Ben Burtt qui a remarqué ça avec ses amis. Il a dit, mais on l'entend beaucoup, ce cri dans les films quand il y a des gens qui meurent. Et quelques années plus tard, ce monsieur Ben Burtt, il a été embauché pour réaliser le design sonore de Star Wars. Et il s'est souvenu de ce cri, il est allé le chercher dans les archives de la Warner et il l'a intégré au premier volet de la série Star Wars, en le baptisant au passage Creed Wilhelm, parce que l'un des personnages qu'il avait vu crier comme ça dans un film, c'était un soldat qui s'appelait Wilhelm, et donc pour lui, c'est devenu le cri de Wilhelm. Et à partir de là...
Un soldat allemand, j'imagine.
Un soldat...
Voire nazi, Stéphane.
Et à partir de là, le cri de Wilhelm, c'est devenu une sorte de clin d'œil entre ingénieurs du son.
Non,
un petit gimmick destiné non pas au public mais à la profession. Exactement,
dans
c'est
la
genre,
profession.
T'as vu, je l'ai mis dans mon film, et toi aussi tu l'es. Et donc, entre ingénieurs du son, comme ça, dans ce petit milieu assez nichesque des ingénieurs du son, ils s'amusaient à le mettre là où ils pouvaient.
C'est génial.
Sauf que ça a gonflé démesurément, et à partir des années 2010, il y a des gens normaux, c'est-à-dire pas des ingénieurs du son, qui ont commencé à le remarquer. Il y a eu des articles dessus, des vidéos YouTube dessus. Et aujourd'hui, le cri de Wilhelm, il est souvent utilisé de façon ironique, vous voyez, comme une sorte de blague méta. C'est-à-dire, c'est le réalisateur qui dit au spectateur « Ah, vous avez vu, j'ai utilisé ce son, donc, et vous êtes content de le reconnaître. On est une petite famille qui reconnaissons le cri de Wilhelm. On l'écoute une dernière fois. » Une nouvelle fois, peut-être. Voilà, là on l'a bien en nous. Il y a des gens qui commencent à trouver ça quand même assez désagréable.
On l'entend encore dans des films vraiment de ces cinq dernières années.
Ah, de ces cinq dernières années. Oui. Enfin, je mettrai la liste.
Films français. Hein.
Parce que le prix a un petit côté vintage, je trouve maintenant.
Oui.
Si vous me le faites goûter plusieurs fois.
Alors là, le truc c'est qu'on l'entend tout seul, mais quand il est fondu,
oui, voilà. Ça passe quoi. Avec
quand
une
il est fondu, il y a des explosions dans tous les sens. C'est à l'arrière-plan, il faut peut-être être un petit peu attentif. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on travaille ensemble à trouver un nouveau cri de Wilhelm qui pourra être utilisé dans les productions futures. Je voudrais donc que chacun d'entre vous, avec la bonne volonté qui vous caractérise, vous proposiez un cri de quelqu'un qui est en train de mourir de façon violente. Ça, c'était Olivier Pouls. C'était très bien réalisé. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner le vôtre ?
Oh, c'est là qu'on voit que c'est l'acteur parmi nous. Stéphane.
Oui, mais
alors,
c'est...
Et pour ceux qui nous suivent en vidéo, il y a même eu la langue qui est sortie à la
Exactement.
Fin. C'est assez impressionnant.
La langue, elle sort toujours.
La langue sort, les yeux révulsés. On avait le paquet.
Et moi, j'ai eu un petit effroi. Mathieu, qu'est-ce que vous proposez pour remplacer le cri de Wilhelm ?
Moi, je peux faire.
On peut filmer Mathieu.
Je peux vous faire Zaza Napoli qui décède dans la cage folle.
Oui. Mais c'est très bien réalisé.
C'est pas mal ça.
Mais oui, mais je pense
mais
que
ça va pas servir beaucoup.
À part s'ils font pédale 12-4, sinon moi, ça n'aura pas d'intérêt.
Je pense que c'est quand même Stéphane qui gagne. On pourrait faire un mix de ces sons, ensemble.
Ah oui, c'est possible.
Oui, Romain, le réalisateur de l'émission, dit et pourquoi est-ce qu'on le ferait pas tous ensemble, chacun
ça
notre cri. Est-ce que vous êtes prêts?
Comme ça, lui, ça lui épargne du montage et nous, on peut le faire. Chacun le cri qu'on a fait.
1, 2, 3.
Cette émission a officiellement touché le fond grâce à vous, David Castello-Lopez et l'origine.
On peut réécouter
l'origine du cri de Wilhelm.
On peut tout réécouter, les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Non, je sais, il y a des pervers.
Oh oui. Olivier Pouls, justement, c'est la transition idéale, arrive pour nous parler des crêpes Suzette. Pourquoi s'appellent-elles les crêpes Suzette? Et surtout, faut-il les flamber? Vous allez voir qu'il y a un gros débat en perspective. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Grâce à eux, l'amitié belgeo-portugaise aura fait cette année un pas de géant. On peut le dire, Stéphane, à ce stade de la saison, Olivier Pouls et David Castello-Lopez sont cul et chemise, bunda et camisa, comme on dit chez David. Leur discussion en antenne fascine même nos invités, comme Bruno Solo l'autre jour.
Il faut des oignons grelots, des carottes, évidemment, des champignons de Paris, de la crème, du bouillon de légumes et, très important d'en parler avec David, un petit trait de jus de citron.
Vous en parliez quand avec David en fait
avant l'émission
avant d'entrer,
dans, exactement.
Ils vous emmerdez à ce point-là donc.
Ils s'emmerdent à ce point-là, ils sont juste amis. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique, vous vous passionnez pour les oignons grelots, mais pas que. Toutes les recettes vous passionnent, vous nous en dévoilez les origines sur Europe.
Et notamment, il y en a une qui me passionne beaucoup, c'est, je dois dire, ma façon préférée de faire les crêpes, c'est la crêpe Suzette.
C'est divin.
La crêpe au Nutella, terminado. Vive le retour de la crêpe Suzette. Alors la crêpe Suzette, c'est assez difficile de l'attribuer avec certitude à quelqu'un, même s'il y a une piste très sérieuse, c'est celle d'Auguste Escoffier, le grand chef de la fin du 19e et début 20e siècle. C'est lui qui l'aurait inventé à Monaco en 1896, alors qu'il était le chef du Grand Hôtel. Et il l'aurait inventé pour le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, qui dînait alors en compagnie d'une certaine Suzette, l'actrice Suzanne Reichenberg. Le futur roi est subjugué par ce plat, cette manière de préparer la crêpe. Et évidemment, Escoffier veut lui attribuer le nom de cette crêpe. Ça aurait pu s'appeler la crêpe Édouard. Mm-hmm. Mais lui, gentleman, dit « Je ne suis pas digne. Nous donnerons plutôt à cette chose exquise le nom de cette jeune femme qui est avec moi. » Et donc, elle s'appellera la crêpe Suzette. C'est lui qui va, en tout cas, en codifier la recette en 1903 dans ce qui restera l'un des ouvrages majeurs de la cuisine française. Il explique donc la vraie recette et je me suis replongé dedans et je suis un peu tombé de ma chaise, dois-je vous dire.
Non.
Eh bien oui, parce que pour moi, la crêpe Suzette, c'était une crêpe flambée.
Bien sûr.
Et alors qu'elle n'est pas flambée dans la recette originale.
Quand vous commandez la crêpe Suzette dans une bonne brasserie, on arrive, il la flambe devant tout le monde.
Et oui, elle est flambée. C'est le grand marnier, c'est ce qu'on vous raconte traditionnellement. Eh bien, pas du tout. En réalité, la crêpe Suzette, c'est une crêpe qui est réalisée à base pâte à crêpe normale, mais qui est garnie d'un beurre de mandarine dans la recette originale. Alors, le beurre de mandarine, c'est pas très compliqué à faire. Prenez du beurre pommade, c'est-à-dire du beurre mou. Même quantité de sucre, vous mélangez bien tout ça. Vous zestez, donc vous récupérez les zestes d'une ou deux mandarines que vous mettez dedans. On réchauffe les crêpes dans le beurre, on rajoute ce beurre d'orange, on rajoute une petite touche de curaçao à la fin, et puis terminer en vous la serre.
Ça, c'est ce qu'a mangé...
Ça, c'est ce qu'a mangé le futur Édouard VII, c'est la Suzette de Auguste Escoffier. Et ensuite, bah, probablement, notamment, avec le développement du service un peu spectaculaire en salle, comme vous le disiez, dans les brasseries. Il n'y en a plus beaucoup, d'ailleurs, dans lesquelles on peut encore manger de la vraie crêpe Suzette flambée, telle qu'on l'imagine. Allez, par exemple, quand ce sera rouvert, le Train Bleu, par exemple, qui est une brasserie très traditionnelle, fait encore ce genre de service au Guéridon. Et donc là, on vous apporte la crêpe, on va la faire revenir dans un jus d'orange avec du sucre. On va mettre un joli trait de curaçao ou de Grand Marnier. Tac, on va flamber. Et c'est vrai que le fait de flamber, ça évapore tout de suite l'alcool. Alors, il en reste toujours un tout petit peu dedans, mais pratiquement plus. Voilà, choisissez votre manière de faire la crêpe Suzette. Mais en tout cas, sachez que pour l'authentique, elle n'est pas flambée.
Eh bien, moi, ma crêpe Suzette restera toujours flambée. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr et on pourra retrouver aussi dans quelques minutes la chronique fabuleuse de Stéphane Bern qui ponctue cette émission. Le mot de la fin, l'histoire d'une expression aujourd'hui, Stéphane.
Découvrir le pot aux roses.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ah là là, animateur émérite, Stéphane Bern est aussi désormais un des plus grands acteurs français, je pense que vous le savez, au sens du jeu, une palette de nuances qu'il met à profit, y compris lorsqu'il anime notre émission sous la direction virtuose de notre réalisateur, secret de tournage.
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Ouais, Stéphane, tu peux la faire plus audacieuse ?
Bonne direction d'acteur.
Stéphane, avant d'aller chercher ce César qui ne sera qu'une formalité cette année, auriez-vous l'obligeance de nous livrer votre chronique, à savoir le mot de la fin?
Oui Mathieu, aujourd'hui, découvrir le pot aux roses. C'est vrai qu'on nous en cache des choses. Notre bien-aimé collègue des fins de matinée sur Europe 1, Anne Roumanoff, le dit elle-même, on ne nous dit pas tout. Du coup, on est bien content quand les entourloupes cessent, même si toutes les supercheries ne sont pas forcément bonnes à être découverte.
Alors revenons à nos moutons, Stéphane, d'où vient cette expression découvrir le pot aux roses et est-ce que ça a un lien avec des roses qui seraient dans un pot ?
Bon, honnêtement Mathieu, plusieurs explications cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Ainsi, on a longtemps imaginé que des soupirants glissaient sous les pots de fleurs des balcons des femmes infidèles, des petits billets doux et que les maris trompés, en découvrant les lettres, en soulevant les bacs à fleurs, découvraient également le pot aux roses.
Ah, j'aime bien.
Sachant que les pots de fleurs ne sont pas apparus avant le XIIe siècle, on peut mettre de côté cette explication. Bah oui. Il faut savoir également qu'avant le XVIe siècle, découvrir signifiait mettre à nu, puis c'est devenu la découverte au sens moderne. Une autre explication est donc possible. Pour certains, le pot aux roses était le réceptacle où les femmes entreposaient leurs fards à joues. Les hommes qui découvraient le pot aux roses prenaient conscience de la supercherie que peut parfois être le maquillage quand la dame poudrée n'a plus rien à voir avec la dame au naturel.
Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence, oui, Stéphane. Oui.
Ce qui est certain, c'est que la rose a toujours symbolisé le secret, tout comme la virginité. C'est aussi la fleur que Cupidon a donnée à Harpocrate, le dieu du silence, pour qu'on ne dévoile pas les amours de Vénus. Vous voyez, l'expression de la découverte du pot aux roses n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, loin de là.
Historiquement vôtre spécial, le jeu des dames, c'est terminé, les amis. Stéphane,
je vous aime.
Ah, vous pouvez chanter aussi si vous voulez. Oui,
j'adore
si ça vous
cette
inspire.
Chanson, Femme, je vous aime.
On aura beaucoup chanté aujourd'hui. Oui. On aura beaucoup chanté.
Julien Clerc, c'est vrai. Toute ma jeunesse.
Toute votre jeunesse. Stéphane, laquelle de nos grandes stratèges de l'histoire vous aura le plus marqué, le plus ému, le plus surpris?
Ben, voyez-vous, je ne pensais pas qu'un jour on parlerait dans une émission d'histoire de Zaïa de Har. Mais et au fond, elle est entrée dans l'histoire. Alors, par la petite porte,
à sa manière.
Mais elle y est entrée quand même.
Et vous nous disiez que vous l'aviez rencontrée, Stéphane.
Oui, je l'ai rencontrée.
Et qu'elle était charmante.
Absolument divine.
C'est ce que j'ai cru comprendre
très
aussi.
Très joliment
fait. Peut-être qu'on devrait aller plus loin et l'inviter. Bon, je ne sais pas. Au sommaire de demain, Stéphane, que vous dit votre boule de cristal?
Eh bien, je vois. Demain, on réunit trois personnages qui l'ont échappé belle. Oui, visiblement, on leur en voulait. On a voulu les abattre. Et pas qu'une fois, vous verrez. On réunit la reine Victoria, l'homme politique cubain Fidel Castro. Et quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un contemporain qui l'a échappé belle.
Oui,
aussi.
Stéphane, Thomas Vergara, le mari de Nabila, vous connaissez ?
Non.
Moi non plus, en fait. Mais promis, je vais bosser le truc. Ah, non, attendez, pardon, on me signale dans le casque que j'ai changé d'avis pour cette émission, que j'ai dit qu'à la place d'un zozo de la télé-réalité qui s'est fait planter au sens propre du terme par sa femme, je ferais plutôt Zlatan Ibrahimovic, le footballeur légendaire pour sa frappe de balle et sa mégalomanie. Et oui, c'est possible, je me crois, je change souvent d'avis comme ça. Et je peux vous dire que lui aussi, Zlatan, l'a échappé belle, vous verrez.
Bon, mettez-vous d'accord avec vous-même. Moi, promis. J'aime beaucoup Zlatan parce que je l'ai rencontré aussi.
Aussi, mais vous les avez tous rencontrés, c'est pas
oui,
possible.
Oui, je sais.
Lui aussi est
très sympathique.
Il est plus grand,
très grand,
peut-être.
Il est très très grand, lui. Et c'est vrai qu'il se compare à la Tour Eiffel, si vous dire.
Et adieu, nous verrons ça demain.
À demain, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.